Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative. Cette émission est réalisée par Radio Campus Amiens. Elle est disponible sur le 87.7 FM, sur le DAB+, et sur radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, nous vous proposons la première partie d'un reportage consacré aux Compagnons du Devoir. Cette association ouvrière, dont l'antenne amiénoise est située à Boves, propose différentes formations aux métiers manuels. Dans un premier temps, Rémi est allé à la rencontre de Baptiste Paty, formateur pour les Compagnons du Devoir et meilleur ouvrier de France. L'occasion parfaite de découvrir son parcours et d'en apprendre plus sur les compagnons.
Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps ?
Très bien, bonjour, donc Baptiste Paty. Je suis formateur sur la maison des compagnons à Lille. Donc formateur depuis 7 ans pour tout le domaine de la couverture, donc du CAP au brevet professionnel en passant par des formations d'entreprise.
Est-ce que tu pourrais aussi me rappeler ce que c'est la couverture finalement pour les personnes qui ne le sauraient pas et qu'on aurait besoin de remettre en contexte cet aspect-là?
Donc la couverture, ça va être vraiment tout ce qui va être sur le bâti pour étancher le bâtiment. Donc vraiment en fait tout ce qui va être enveloppe du bâtiment dans sa généralité et surtout les matériaux qu'on connaît le plus comme le zinc, l'ardoise, le tuile et tout ça pour venir couvrir le bâtiment.
Quel est ton statut aujourd'hui en tant que professionnel et quelle est ta formation pour avoir cette situation professionnelle finalement?
Donc là je suis formateur donc en couverture depuis 7 ans et avant ça, j'ai fait mon tour de France en fait chez les Compagnons du Devoir, donc où j'ai voyagé pendant 6 ans à travers la France. Et donc aujourd'hui, je suis titulaire d'un CAP, d'un brevet professionnel, et depuis le mois de juin l'année dernière, la réussite du concours du meilleur ouvrier de France, qui délivre un diplôme de Bac+2 maintenant aussi dedans.
Alors là, c'est super intéressant. Tu nous donnes plein d'informations. Peut-être est-ce que dans un premier temps, en fonction de ce que tu viens de nous dire, tu pourrais m'expliquer ce que tu as fait dans ton tour de France, où est-ce que tu es allé, quelle entreprise tu as croisé sur ton chemin?
En fait, durant mon tour de France, j'ai fait les 4 coins de la France, donc où je suis passé par Strasbourg, Nantes, Nîmes, Bordeaux, Montargis, Lille, Reims, et pour finir 1 an et demi en Suisse avant de revenir sur Lille pour être formateur. Et du coup, pendant le parcours, j'ai eu la chance de travailler aussi bien dans des entreprises de monuments historiques, chez des petits artisans où on était qu'à deux, et donc j'ai pu aussi bien travailler vraiment sur du pavillon comme sur du château en tout genre, et avoir la chance de travailler tous les matériaux en fait de couverture.
Pareil, ouvrier de France, à quoi ça correspond? Comment on devient ouvrier de France? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ça?
Oui, donc c'est un concours en fait qu'on réalise personnel pour savoir un peu notre niveau et puis pour des objectifs personnels. Selon les conditions pour y participer, c'est qu'il faut avoir au minimum 10 ans d'expérience dans le métier. Et après, c'est une maquette de mise en œuvre où on a tous les matériaux de couverture qui sont représentés, avec un travail qui m'a représenté 1100 heures de travail personnel, donc en dehors de mon emploi, donc les week-ends, vacances et ainsi de suite, pour présenter le projet et être corrigé par des meilleurs ouvriers de France pour évaluer si j'étais apte à réussir le concours ou pas.
Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle un chef-d'œuvre et qu'est-ce que tu as proposé toi finalement ?
On avait un sujet qui était prédéfini en fait avec un cahier des charges. Donc sur une maquette de forme un peu complexe où on avait des formes arrondies et des cintres avec tous les matériaux de couverture qui étaient représentés dessus. Donc voilà. Donc on avait, on avait un cahier des charges et c'était une maquette prédéfinie en fait pour le concours.
Ok. Professionnellement, qu'est-ce que ça apporte? J'imagine que c'est super valorisant, mais professionnellement, qu'est-ce que ça apporte d'être meilleur ouvrier de France?
Ça peut ouvrir des portes par la suite. Où c'est une très grande un gage de qualité en fait au niveau des, par exemple des banques, des clients et tout ça, parce que c'est la plus haute distinction dans le domaine professionnel en fait pour le bâtiment et même un peu en tout genre. Si on prend l'exemple de meilleur ouvrier de France, on pense aux cuisiniers comme Philippe Etchebest, Paul Bocuse, tous ces grands noms là. Et donc c'est un gage de qualité. Surtout derrière, et puis moi après j'ai fait ce concours pour un titre personnel, juste pour savoir où j'en étais et pouvoir montrer mon savoir en fait.
Super, On peut peut-être revenir sur les compagnons du devoir en tant que tel. Toi, quand tu étais encore apprenti, peut-être un peu plus jeune, concrètement, pourquoi tu as choisi de faire les compagnons du devoir et qu'est-ce que ça t'a apporté finalement de plus qu'un simple CAP, on va dire ?
Alors déjà, c'était par pur hasard que j'ai connu les compagnons, parce que j'ai fait mon CAP dans un lycée professionnel sur Soissons. Et donc après j'ai découvert les compagnons parce qu'on ne faisait plus le brevet professionnel en fait dans le lycée. Et c'est là que j'ai entendu un spot radio pour des journées portes ouvertes. Et donc je me suis présenté. Ce qu'ils proposaient était plaisant et donc c'est là que j'ai choisi de démarrer mon Tour de France. Et l'avantage qu'on va avoir par rapport à un autre établissement, c'est que on propose le voyage en fait dans notre cursus. Et la richesse du bâtiment français en fait fait que tous les 200 km grossièrement, on change totalement d'architecture, de matériaux de construction et ainsi de suite. Donc du coup en fait, on s'enrichit vraiment professionnellement grâce au voyage, chose que qu'aucun autre établissement propose en fait aujourd'hui.
Oui, puis c'est vrai que souvent, on peut avoir tendance à rabaisser les métiers de l'artisanat, entre guillemets, mais en fait, il existe des filières d'excellence aussi, entre guillemets, dans ces métiers-là.
Oui. Et du coup, je peux vous dire que l'intelligence de la main, c'est pas un terme en l'air, et que j'invite vraiment les gens à essayer. Très souvent, les gens qui ont pris goût ont du mal à revenir en arrière et c'est très épanouissant. Et notamment, par exemple, après le Covid, on a eu énormément de profils de reconversion qui se sont retournés vers les filières du bâtiment parce que le besoin d'être à l'extérieur, de faire quelque chose de manuel, de concrétiser quelque chose de ses mains, c'est hyper gratifiant en fait.
On peut aussi parler un petit peu de ton rôle de formateur. Pourquoi toi, tu as choisi d'être formateur aujourd'hui auprès des compagnons du devoir ?
Surtout pour la transmission. Et la retransmission, je dirais même, parce que c'est le fait qu'il y ait des personnes qui ont pris du temps pour nous expliquer et de partager son savoir, qu'aujourd'hui, c'est ce qui me plaît vraiment dans le métier de formateur, c'est de pouvoir voir justement des jeunes s'épanouir et grandir. Parce que quand on les a 5 ans en formation, on les voit arriver sortis de collège à 15 ans et on les voit sortir à la vingtaine d'années plein d'espoir et de compétences en main. Donc c'est ça qui est hyper gratifiant et j'ai qu'une chose à dire, c'est que c'est pour moi le plus beau métier aujourd'hui et c'est pour ça que je le fais depuis 7 ans, de pouvoir partager justement ce savoir qui a été transmis par les anciennes générations.
La passion, on la sent quand on discute ensemble. Est-ce que justement tu pourrais m'expliquer toi ce qui te parle dans la couverture, c'est quoi les différentes facettes du métier qui t'ont intéressé, qui t'ont accroché? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ça?
Oui, déjà en premier, c'est le phénomène de liberté. Parce que quand on est sur une toiture, on n'a rien au-dessus de notre tête. On a la sensation de prédominer un petit peu tout son environnement. Le fait d'être toujours en extérieur, parce que très souvent, les gens du bâtiment ne sont pas faits pour rester assis sur une chaise derrière un bureau. Et c'est aussi, nous, dans le métier, moi, ce que j'aime, c'est la diversité, en fait, des matériaux qu'on va pouvoir utiliser, où on va pouvoir manipuler aussi bien de la terre cuite, de l'ardoise naturelle, et après, en métaux, on va pouvoir manipuler du plomb, de l'acier laqué, du zinc, de l'aluminium, et j'en passe encore. Donc, en fait, chaque chantier n'est jamais identique, et tous les projets en fait sont uniques et ça permet justement de pas avoir cet effet monotone en fait dans le métier.
On l'a compris, tu es dans le métier depuis une dizaine d'années à peu près. On te sent passionné, tu as fait beaucoup de chantiers, des chantiers historiques, des chantiers on va dire plus classiques. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, est-ce que tu as un chantier de rêve, quelque chose que tu n'as encore jamais fait et que tu adorerais faire ?
C'est une question assez délicate parce que j'ai déjà eu pas mal d'expériences diverses, comme je disais, aussi bien sur des châteaux que tout ça.
Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué particulièrement alors peut-être ?
Oui, plutôt ouais. C'est un chantier pour un particulier sur Reims qui était classé par les architectes de France. Donc c'était pas un monument historique, mais c'était pour un particulier avec une maison très complexe en ardoise, où là on avait le cas, on va dire entre guillemets, le cas école, où tout ce qu'on peut retrouver dans des cours était inscrit dedans. Donc très très complexe techniquement. Et du coup, on a passé un super moment dessus, en fait.
Est-ce que tu pourrais aussi m'expliquer un petit peu la particularité un peu historique des Compagnons du Devoir, finalement ?
Donc les Compagnons, en fait, d'après nos légendes, les premiers Compagnons auraient été retracés, en fait, à partir de la création du Temple de Salomon. Donc avec ces deux architectes, le maître Jacques et le père Soubise, qui servaient justement d'architectes pour les charpentiers et les tailleurs de pierre. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on a des recensements, on va dire des écrits, où on a le phénomène, en fait, d'ouvriers qui voyageaient de chantier en chantier pour partager le savoir. Et profiter du champ et de faire de beaux chantiers. Et c'est là que s'est créé, en fait, en soi, les Compagnons, le phénomène de voyager par le biais du métier. Et après, au moment des cathédrales, c'est là qu'il y a vraiment eu, en fait, des rites ou des initiations, en fait, pour des chefs de chantier ou ce genre de choses-là, qui a commencé à donner, en fait, après, vraiment la base du compagnonnage comme on l'a aujourd'hui, où on a des rites à partager, justement, avec différents stades, différents grades, en fait, suivant nos étapes de voyage, où on va être aujourd'hui, ce qu'on va parler de aspirant pour devenir compagnon, l'étape de compagnon, puis le compagnon sédentaire, une fois qu'il a terminé son tour de France, et ainsi de suite. Et donc, il y avait ces prémices-là, en fait, qui sont arrivés, en fait, dans ces périodes-là, justement, dans les anciens écrits qu'on a réussi à trouver, en fait.
Si je comprends bien, il y a aussi une forme, on va dire, de tradition dans la façon de partager les connaissances, de former les gens et aussi d'appliquer des techniques, finalement.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais surtout du phénomène de retransmission, parce que c'est toujours un père qui nous l'a enseigné et qu'on continue à renseigner après à la jeunesse, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a réussi à perpétuer le geste et le savoir, en fait, le savoir être, le savoir faire aussi.
Super, en tout cas, bon courage pour la suite et merci d'avoir répondu à mes questions.
Très bien, merci à vous en tout cas.
Vous écoutez l'interview de Baptiste Paty, formateur pour les Compagnons du Devoir et meilleur ouvrier de France. Dans cette seconde partie du reportage, Rémi est allé à la rencontre d'Émile, apprenti charpentier. Il est actuellement en formation en couverture chez les Compagnons du Devoir d'Amiens.
Émile, bonjour. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu fais actuellement aux Compagnons du Devoir ?
Bonjour. Moi, en ce moment même, là, je suis sur le Tour de France, donc je suis charpentier. Et là, je suis en stage à Amiens pour la couverture.
Tour de France, donc tu vas découvrir différentes entreprises, différents savoir-faire, différentes connaissances. Est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce que tu travailles en ce moment à Amiens, ce que tu es en train d'apprendre ?
En ce moment, moi, je suis basé en campagne d'Amiens. Donc, c'est rattaché à la prévôté d'Amiens. Et là, je suis en charpente chez SM Charpente, à Lemeux, à côté de Compiègne.
Et qu'est-ce que tu y fais concrètement ?
Je suis surtout en atelier, cette fois-ci dans cette entreprise, et je fais beaucoup de montage pour aider au levage pour le chantier, pour mes collègues qui suivent derrière.
Pourquoi tu as choisi de faire les Compagnons du Devoir ? C'est quoi ton parcours concrètement ?
Moi, mon parcours, je suis sorti de collège, j'ai fait une seconde structurante industrielle à Caen. Ça m'a pas plu l'industrie, du coup je suis parti dans le bois, dans un CAP charpente marine à Cherbourg, et je voulais continuer dans le bois, et j'avais un formateur qui était passé chez Compagnons, donc ça m'a vachement plu, comment l'était, etc. Du coup, ça m'a intéressé, et je suis parti en charpente chez Compagnons en CAP, où je me suis fait adopter la première année pour partir sur le Tour de France, et là, donc, je suis adopté, et j'ai changé de ville, et maintenant, je suis à Amiens.
Concrètement, là, tu es en cours de formation, tu es en cours de parcours, qu'est-ce que ça t'a apporté pour le moment, les Compagnons du Devoir ?
Les Compagnons, concrètement, ça m'a apporté une envie de savoir, franchement, de la rigueur, envie d'apprendre tout le temps et surtout aimer son métier et y aller à fond, quoi.
Est-ce que du coup maintenant tu envisages ton avenir, la suite professionnelle différemment, et comment tu l'envisages aussi ?
Oui, franchement différemment, parce que de base j'étais pas prédestiné à aller dans le bâtiment. Moi, mes parents, ils sont pas du tout dans ce thème-là. Et du coup, je souhaite continuer pour l'instant la charpente et peut-être aller plus tard dans un bureau d'études ou ouvrir mon entreprise.
Ok, là sur l'aspect peut-être un peu plus pratique, on se trouve dans un atelier. Moi je vois des espèces de mini toitures, on va dire, des maquettes peut-être. Est-ce que tu pourrais m'expliquer les différents éléments qu'il y a là, les différentes techniques du coup aussi que tu vas pratiquer? Qu'est-ce qu'on voit finalement et à quelle technique ça correspond?
D'accord, bah là du coup on est dans le Kobo, on voit un peu, on a 2 semaines de couverture, donc avec un formateur couvreur. Et du coup là on voit plusieurs techniques, donc là on voit beaucoup de zingris, donc apprendre à souder, etc. On voit aussi l'étonnage, tout ça, les bases de la couverture, donc on voit de la tuile mécanique et de la tuile plate là-bas, comment poser un Velux, il y a quoi d'autre, du chêneau en zingris, pareil, de la gouttière. On voit les naissances, on voit plein de choses, les bases de la couverture, quoi.
Comment s'appelle cet élément là qu'on voit en bois, sur lequel on va poser les tuiles?
Des lithos, ça s'appelle des lithos.
Ça c'est l'aspect vraiment charpente, on va dire, du métier?
Ouais, c'est plus les coureurs qui font ça, nous on fait le support qui vient en dessous du litonnage.
Toi, j'ai posé la même question à ton formateur concrètement, pourquoi ça te parle la couverture? C'est quoi les aspects du métier qui te plaisent particulièrement?
Moi j'aime beaucoup la zingrie, après c'est personnel, parce que c'est assez compliqué, c'est assez complexe, parce qu'on doit faire des développés de nos pièces, et c'est ça qui me plaît, et c'est vachement intéressant. Après la couverture, c'est vachement complémentaire pour un charpentier, parce que c'est ce qui vient après, et du coup on a toujours deux trois petits trucs à faire en chantier qui sont en rapport avec la couverture en fait. C'est lié en fait les deux.
Et des métiers ultra complémentaires finalement.
Voilà, exactement. Très complémentaire, donc c'est bien de savoir faire les bases de la couverture.
Est-ce qu'il y a des chantiers sur lesquels tu kifferais travailler plus tard? Voilà, est-ce que tu as des idées en tête, des exemples que tu pourrais me donner?
Ouais, bah moi j'aimerais bien aller dans des boîtes de monuments historiques. Donc par exemple les métiers du bois à Caen, c'est une super bonne. Enfin, il y en a plein. Mais là par exemple visiter sur Notre-Dame, toutes ces choses-là, c'est vachement intéressant, quoi.
Super, bah écoute, on te le souhaite, merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
Merci, bon courage à vous, au revoir.
C'est déjà la fin de la première partie du reportage consacrée à l'antenne aminoise des Compagnons du Devoir. Pour rappel, Rémi est allé à la rencontre de Baptiste Paty, formateur pour les Compagnons du Devoir et meilleur ouvrier de France, ainsi que d'Émile, apprenti charpentier. Actuellement, en Tour de France, il apprend à Amiens certains aspects de la couverture. Je vous propose de terminer cette émission avec le second épisode de la série « L'intégration par le sport » de Manon Chamorin-Desmarais, étudiante du Master Journalisme de l'UPJV.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série « Accessibilité et intégration par le sport ». Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler handicap, et plus précisément sport adapté. Marie Bauchet en ski alpin, Stéphane Houdet en tennis, ou encore Marie-Amélie Le Fur en athlétisme, ces champions médaillés d'or paralympiques ont prouvé que le handicap ne les a pas empêchés de monter sur le podium. Alors que le parasport a permis à différents sports de s'ouvrir aux personnes en situation de handicap, les termes de sport adapté et handisport ont aussi fait leur apparition, pour le plus grand bonheur de ces sportifs. Ouvert en 1995, le sport adapté d'Amiens Métropole, présidé par Thérèse Kipoulou, permet aux petits et grands en situation de handicap de dévoiler leurs compétences à travers le sport.
Le sport adapté à Amiens Métropole est né depuis 1995. Ça date quand même de très longtemps. Et la promotrice était une ancienne maître nageur qui a disparu, Florence Crouzet, qui était maître nageur au Coliseum, qui accompagnait une personne handicapée vraiment en individuel. Et il s'est fait qu'un jour, la dame, quand porteur d'handicap, a été choquée de voir comment est-ce que certaines autres personnes handicapées n'étaient pas acceptées, on va dire un petit peu isolées ou bien refoulées du milieu des bassins d'eau. Et elle s'était donné l'engagement de céder son créneau horaire parce qu'elle avait eu ce privilège-là auprès des administratifs de pouvoir avoir un temps pour elle où un maître nageur pouvait l'accompagner dans la natation. Alors elle s'est dit, au lieu que ce soit que moi, toutes ces personnes qu'on refuse d'accueillir au sein du Coliseum sont comme moi. Moi, je leur consacre mon temps. C'est une association qui accueille les enfants qui peuvent accepter déjà de de communiquer, d'interagir avec les autres. Donc à partir de 4 ans, ils sont admis jusqu'à l'âge adulte. Nous avons eu à accueillir même des personnes âgées de la cinquantaine. Et donc, c'est une association qui n'accueille pas un grand monde, sachant que l'eau, c'est un environnement quand même très dangereux et que ces personnes ont besoin d'un accompagnement strict. Faire un très grand groupe ne serait pas l'idéal et donc on se limite au maximum à 15 adhérents. Ce que nous pratiquons, c'est un sport non compétitif. C'est vraiment un sport loisir où nous donnons un petit créneau horaire dans l'emploi du temps des personnes porteurs de handicap et aussi des personnes qui les accompagnent au quotidien. Nous leur donnons l'occasion de se poser un petit peu par rapport à la vitesse du train de la vie. Et donc, une fois par semaine, les week-ends, on leur propose 1h30 à la piscine. Et pendant les petites vacances, on leur propose une ou deux fois aussi de l'équitation.
C'est donc dans le but de permettre à tout un chacun de s'épanouir à travers le sport et de découvrir une discipline, mais aussi d'autres personnes, que le sport adapté est né. À Amiens, les sportifs ont accès à deux disciplines considérées comme thérapeutiques, la natation et l'équitation.
Par l'expression « sport adapté », on entend dire un sport qui s'adapte à l'état d'une personne. Et donc, nous, en tant qu'association de sport adapté, nous accueillons un public bien spécifique, celui porteur de handicap mental. Et c'est déjà ce cadre-là. Et nous adaptons la natation et l'équitation selon les besoins que nous pouvons apercevoir sur la personne ou selon sa demande. Les deux sports principaux que nous proposons sont la natation et l'équitation parce que nous accueillons même des personnes âgées de la cinquantaine. Et donc, c'est une association qui n'accueille pas un grand monde, sachant que l'eau, c'est un environnement quand même très dangereux et que ces personnes ont besoin d'un accompagnement strict. Faire un très grand groupe ne serait pas l'idéal et donc on se limite au maximum à 15 adhérents. Ce que nous pratiquons, c'est un sport non compétitif. C'est vraiment un sport loisir où nous donnons un petit créneau horaire dans l'emploi du temps des personnes porteurs de handicap et aussi des personnes qui les accompagnent au quotidien. Nous leur donnons l'occasion de se poser un petit peu par rapport à la vitesse du train de la vie. Et donc, une fois par semaine, les week-ends, on leur propose 1h30 à la piscine et pendant les petites vacances, on leur propose une ou deux fois aussi de l'équitation.
C'est donc dans le but de permettre à tout un chacun de s'épanouir à travers le sport et de découvrir une discipline, mais aussi d'autres personnes, que le sport adapté est né. À Amiens, les sportifs ont accès à deux disciplines considérées comme thérapeutiques, la natation et l'équitation.
Par l'expression « sport adapté », on entend dire un sport qui s'adapte à l'état d'une personne. Et donc, nous, en tant qu'association de sport adapté, nous accueillons un public bien spécifique, celui porteur de handicap mental. Et c'est déjà ce cadre-là. Et nous adaptons la natation et l'équitation selon les besoins que nous pouvons apercevoir sur la personne ou selon sa demande. Les deux sports principaux que nous proposons sont la natation et l'équitation parce que nos adhérents sont principalement des personnes à mobilité réduite et de niveau cognitif très très faible. Ils ont besoin d'accompagnement dans l'eau et d'accompagnement dans l'équitation qui sont très thérapeutiques pour leur épanouissement personnel et puis pour leur forme physique aussi. Nous avons constaté que l'équithérapie pose et calme beaucoup, surtout les personnes autistes et les personnes hyperactives. La natation, c'est un sport qui est global, ça travaille. Le physique, ça travaille les émotions, ça travaille le moral et je veux dire même l'intellect. C'est pour ça que je dis que pour toute catégorie de personnes, l'eau apporte toujours un bienfait. Pour ce qui est de mes adhérents, je dirais qu'il y a une nette progression où il y a eu, parce qu'il y en a qui sont arrivés, qui sont partis.
Pour Thérèse Kipoulou, le constat est sans appel. Intégration, développement et surtout progrès rythment les séances de ces sportifs qui ne peuvent oublier cette grande famille du sport adapté.
Vu que ces personnes-là se rendent compte qu'ils sont acceptés malgré leurs différences dans un milieu ouvert, ça leur donne une certaine confiance en eux. Il y en a une, je vais parler comme ça sans la nommer, qui a un travail au courant de la semaine, et même ses patrons se rendent compte qu'elle a développé de plus en plus de bons réflexes qui ont poussé à ses chefs de lui donner un peu plus de responsabilité et ça lui donne envie de continuer à fournir des efforts dans son travail. Et les retombées reviennent encore à la piscine. Quand elle revient le week-end, le samedi pour faire de la natation, vous sentez qu'elle est motivée, qu'elle demande d'apprendre encore plus parce qu'elle sait que c'est grâce à ça qu'elle a encore un peu plus de capacité pour pouvoir pratiquer son activité en semaine. Et donc, c'est vraiment bénéfique pour l'épanouissement personnel des personnes porteurs de handicap.
Aider les personnes en situation de handicap à avoir accès au sport et s'intégrer plus facilement dans la société, voilà les objectifs de l'Association des familles Sport Adapté d'Amiens Métropole. La Fédération française du sport adapté compte aujourd'hui plus de 65 000 licenciés, ce qui fait d'elle la plus grande fédération de sportifs en situation de handicap en France. Dans le prochain épisode, Thérèse Kipoulou nous parlera du parcours de son fils, Anthony, sportif atteint d'autisme. Suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt !